Vous écoutez RFI, les 11h en temps universel, 13h à Paris. RFI Midi, présenté par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. 2h30 ensemble sur tous les continents, reportage et analyse avec à la une ce jeudi 19 septembre. La panique et la méfiance généralisées au Liban après de nouvelles explosions hier. Des talkie-walkies après des beepers la veille. Il y a de nouvelles victimes, de nouveaux blessés et pas seulement parmi les membres du Hezbollah.
J'ai très peur. C'est dur de rassurer ses enfants quand toi-même tu n'es pas rassuré. On a peur, mais on ne sait pas de quoi. Et on a peur de tout. Tu rentres chez toi, tu as peur. Tu sors de chez toi, tu as peur. On ne se sent pas en sécurité.
Le Premier ministre libanais demande aux Nations Unies de faire stopper la guerre technologique d'Israël contre son pays. Et la population se demande quelle sera la prochaine étape. Israël va-t-il lancer une opération militaire dans le sud du Liban? Quelle stratégie contre le Hezbollah? Nous poserons ces questions à notre invité dans un peu plus d'une heure. Avant cela, nous irons en Pologne où est attendue aujourd'hui la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen se rendra dans l'ouest, là où la tempête Boris a frappé le plus fort, où les inondations sont les plus importantes. Et en attendant sa visite, la solidarité s'organise dans le pays.
Les gens sont très solidaires et très actifs dans l'aide. Il arrive qu'il y ait même tellement de voitures qui font la queue pour donner qu'on n'a même pas le temps de tout prendre.
Reportage de notre correspondant en Pologne à retrouver dans une demi-heure. À midi et demi, temps universel Afrique Midi, comme tous les jours. Et cette question, le Libéria va-t-il extrader le colonel guinéen Claude Pivi, l'homme qui était ces derniers mois l'homme le plus recherché de Guinée? On essaiera aussi de comprendre pourquoi la vie est si chère en Martinique et comment mettre fin à la crise qui prend de l'ampleur. Un couvre-feu a été déclaré après de nouvelles violences à Fort-de-France. Analyse dans quelques minutes. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue. Et on commence comme chaque jour par le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à tous.
Le Hezbollah compte les morts et les blessés dans ses rangs.
Oui, le Hezbollah libanais a confirmé ce matin la mort de 20 de ses membres dans les explosions de talkie-walkie d'hier attribuées à Israël. On estime le total de blessés à 450 dans cette nouvelle vague d'attaques qui a suivi celle de mardi, lancée elle au moyen de beepers piégés. Le mouvement islamiste libanais se retrouve sinon déstabilisé, du moins fragilisé. Alexandre, par ces attaques technologiques d'un genre nouveau, à cette échelle, elles sont totalement inédites.
Fragilisé, car le Hezbollah a subi coup sur coup deux attaques similaires. Dans le monde du renseignement, on appelle ça la stratégie du smoking gun, le pistolet fumant. Les mêmes causes, produisant les mêmes effets. 24 heures après les beepers, ce sont donc des talkie-walkie qui ont explosé. Et tout comme les beepers, dont le fabricant taïwanais dit qu'ils n'étaient pas les siens, le fabricant japonais des talkie-walkie indique ce matin qu'il ne produit plus ses appareils depuis 10 ans et qu'il n'en a plus exporté depuis. Les experts des opérations clandestines admettent qu'il s'agit donc d'une superbe opération renseignement, surveillance, reconnaissance. Un service, probablement le Mossad, est parvenu à intoxiquer le Hezbollah et à manipuler sa fourniture de matériel de communication sensible. Mais le Hezbollah ne peut pas ne pas répondre. Et là est sans doute le piège. Une grosse pression va s'exercer sur sa direction et possiblement fragiliser sa cohésion, car il lui sera difficile de doser une réponse musclée en restant sous le seuil de l'escalade, alors que sa crédibilité est entamée, le Hezbollah pourrait être poussé à la faute et c'est le résultat d'une opération machiavélique.
Franck Alexandre, spécialiste des questions de défense. Les événements du Liban exacerbent les craintes d'une guerre à grande échelle dans la région. La situation sera débattue en urgence demain au Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Attendu dans l'immédiat, la prise de parole d'Hassan Nasrallah, le puissant chef de la formation chiite, le Hezbollah. Ce sera cet après-midi, 17h, heure de Beyrouth.
Dans l'actualité également, le Gabon, où l'ancien président Ali Bongo sort de son silence.
Oui, plus d'un an après avoir été renversé par un coup d'État, il s'exprime dans une lettre ouverte diffusée par ses avocats. Ali Bongo demande à ses compatriotes de ne pas céder à la vengeance contre sa famille et aux autorités d'arrêter les mauvais traitements subis, selon lui, par son épouse Sylvia et son fils Noureddine. Tous deux sont poursuivis, entre autres, pour haute trahison, détournement massif de deniers publics et malversations financières en bande organisée. Mazet. François Mazet, il y a donc dans cette démarche la volonté de défendre ses proches, mais aussi un soupçon d'autocritique chez Ali Bongo.
Oui, seul président est responsable de mes décisions. Je comprends que malgré les réalisations effectuées sous mes mandats, trop de Gabonais souffrent encore et cela reste mon plus grand regret. Voilà l'ébauche de mea culpa d'Ali Bongo et des insuffisances, le mot qu'il emploie, de ses 15 années de pouvoir. Reste à savoir s'il convaincra les Gabonais alors qu'il assure avoir cru longtemps pouvoir changer un système qui s'est finalement retourné contre une famille. L'ex-président prend acte des futures élections sans émettre d'avis sur le processus de transition, car la politique c'est fini pour lui. Je réaffirme mon renoncement définitif à toute ambition nationale. Cela vaut également pour Sylvia et Noureddine, précise-t-il, bouc émissaire d'une situation qui va bien au-delà de leur personne. Car cette lettre est effectivement surtout un plaidoyer pour son épouse et leur fils, poursuivis et emprisonnés depuis un an dans des conditions que leurs avocats jugent difficiles. Ali Bongo demande l'arrêt des violences et des tortures à leur encontre et aux Gabonais de ne pas céder à la vengeance. S'il n'est pas formellement en résidence surveillée, Ali Bongo n'est pas libre de ses déplacements et ses visites sont rares et contrôlées. Selon plusieurs sources, il a jusque-là choisi de ne pas quitter le pays tant que son épouse et son fils demeurent en détention.
Merci François pour toutes ces précisions. C'était François Mazet de la rédaction Afrique. Au Mali, le bilan des attaques djihadistes de mardi est très lourd. Ces attaques lancées contre une école de gendarmerie et l'aéroport militaire de Bamako ont fait de sources sécuritaires plus de 70 morts et 200 blessés. En France, deux semaines après sa nomination à Matignon, Michel Barnier mène aujourd'hui ses ultimes consultations en vue de former son gouvernement. Après avoir rencontré ce matin les présidents des assemblées, il réunit cet après-midi, 15h, les formations politiques consultées en vue de la formation rapide d'un gouvernement, précise les services du Premier ministre.
Emmanuel Macron, lui, fait comme si de rien n'était.
Oui, ce matin, le chef de l'État visitait l'arboretum de Nanterre, près de Paris, après une fin de journée hier pleine de spéculations sur les tensions entre le Premier ministre et le camp présidentiel. Valérie Gasse.
Il a fallu attendre la toute fin de la visite d'Emmanuel Macron pour que le président, interpellé sur l'imminence de l'annonce du gouvernement, réponde dans un sourire qui se voulait détendu. Ben je ne sais pas moi. Pas question pour Emmanuel Macron de donner une quelconque indication publique sur ses réticences concernant le choix des ministres fidèles à sa nouvelle posture du président en surplomb. Les rumeurs sur les tensions entre l'Élysée et Matignon qui ont circulé hier sont d'ailleurs évacuées par l'entourage du chef de l'État en mode « ça ne vient pas de l'Élysée ni de Matignon ». Michel Barnier a fait savoir qu'il menait cet après-midi ses dernières consultations. Faut-il y voir le signe d'une annonce rapide ? En marge de la visite présidentielle, conseillers comme élus ne disent pas le contraire. « On va atterrir », admet une députée du camp présidentiel. Une autre reprend sur le même registre. « Ça doit atterrir, ça va atterrir ». Après le coup de pression d'hier que l'une d'elles relativise en estimant que c'est normal que ça se tende un peu à la fin, l'heure du compromis semble venue.
Valérie Gasse, chef du service politique de la rédaction. De nouvelles violences en Martinique, île des Antilles françaises, peuplée d'environ 350 000 habitants. En conséquence, le préfet a signé un arrêté de couvre-feu dans certains quartiers de Fort-de-France. Depuis plusieurs nuits, des violences urbaines secouent la Martinique, dont la population proteste contre la vie chère.
On se penche maintenant, Gilles, sur une affaire de plagiat dans le secteur des jeux vidéo qui va être tranchée par la justice.
Oui, le géant du secteur Nintendo a porté plainte devant un tribunal de Tokyo contre un concurrent, l'éditeur de jeux Palworld. Nintendo est l'un des trois propriétaires de la licence Pokémon et il accuse Palworld de multiples violations de brevets. Explication de Nathanaël Vitran.
Un monde ouvert peuplé de créatures à capturer et à collectionner. Sans que Pokémon ne soit jamais cité, Palworld ne fait pas mystère de ses inspirations. L'éditeur japonais Pocket Pair propose toutefois une formule plus irrévérencieuse. Loin de l'univers enfantin de Nintendo, les créatures de Palworld peuvent être réduites en esclavage ou dévorées. La presse et les influenceurs résument rapidement le jeu d'une formule. Palworld, c'est Pokémon sous stéroïdes avec des flingues. Le concept fait mouche et lorsqu'il sort en janvier, le succès est aussi soudain qu'inattendu. Pocket Pair vend 5 millions de son jeu en 3 jours et revendique 25 millions de joueurs un mois plus tard. Beaucoup pointent alors du doigt la ressemblance frappante entre certaines créatures de Palworld et celles de Pokémon. Nintendo, pourtant connu pour être particulièrement procédurier, observait depuis la sortie un silence suspects. L'enjeu est pourtant de taille. Pokémon est de loin la licence la plus lucrative au monde, devant Mickey Mouse, Hello Kitty, Star Wars ou Harry Potter. La plainte de Nintendo ne parle pourtant pas de violation de propriété intellectuelle. Visiblement, Goliath a renoncé à poursuivre David sous cet angle. En revanche, le géant japonais accuse son petit rival de violation de brevet, visant donc les mécaniques du jeu. La justice japonaise tranchera. Pikachu, Quick Attack.
Colère la jeune femme, hein, Anne. Allez, un mot pour finir des marchés, les marchés mondiaux qui évoluent dans le vert au lendemain de la décision de la réserve fédérale américaine d'abaisser son taux directeur d'un demi-point. C'est le début d'un assouplissement monétaire attendu depuis deux mois par ces marchés. À l'ouverture ce matin, les bourses européennes évoluaient en nette hausse. Bonne journée sur RFI, donc tout de suite avec Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau. Nous parlons de l'actualité en France durant les 20 prochaines minutes. Et d'abord en Martinique.
RFI. La France à midi.
Plusieurs quartiers de Fort-de-France viennent de passer leur première nuit sous couvre-feu. Décision des autorités après de nouvelles violences en marge du mouvement de contestation contre la vie chère. La vie très chère, trop chère pour de nombreux habitants, comme l'a rappelé cette semaine le leader du collectif AirPac.
On a lancé des injonctions depuis le 1er juillet précisément envers la grande distribution en leur demandant d'aligner leur prix à la France hexagonale. Pour la simple et bonne raison que si nous sommes français, nous avons les mêmes cartes d'identité, les mêmes amendes, les mêmes taxes, si ce n'est que même plus de taxes. On ne comprend pas pourquoi, au sujet de l'alimentaire précisément, on ne pourrait pas avoir les mêmes prix.
Voilà le point de départ et nous recevons pour parler de cette crise le sociologue Pierre Audin, enseignant à l'Université des Antilles en Guadeloupe. Vous êtes l'auteur du livre « Profitation, lutte syndicale et anticolonialisme en Guadeloupe et en Martinique » qui est paru aux éditions La Découverte. Bonjour.
Bonjour.
Cette revendication, aligner les prix sur ceux de la métropole, est-ce qu'elle est réalisable ?
Alors, sans savoir si elle est réalisable, en fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est une question extrêmement ancienne, puisque cette différence de prix via toute une série de taxes, d'impôts indirects, ou au contraire d'exonérations qui vont frapper le transport et l'acheminement des denrées et des produits logistiques dont la Guadeloupe et la Martinique sont dépendantes, c'est une question qui est vieille comme la départementalisation de 1947. Donc la première solution qui avait été trouvée, ça avait été d'aligner un certain nombre de rémunérations, dont celles des fonctionnaires, sur cette cherté de la vie. C'est pour ça que les fonctionnaires aux Antilles touchent une prime de vie chère. Et jusque-là, le mécanisme a perduré. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien sur quel levier s'appuyer pour pouvoir aligner effectivement les prix en Martinique et en Guadeloupe, qui sont, je le rappelle, d'à peu près 40% plus chers pour ce qui est des denrées alimentaires, avec ceux qu'on connaît dans la grande distribution, dans l'Hexagone.
Alors, puisque vous parlez de la grande distribution, c'est vraiment l'un des points qui est mis en cause par ce fameux mouvement, par ce collectif AirPac, qui met en cause les marges de cette grande distribution. Est-ce qu'on sait si ces marges sont plus importantes qu'ailleurs en France ?
C'est-à-dire que le schéma ne fonctionne pas exactement de la même façon. Derrière l'idée qu'il y a cette profitation, cette cherté de la vie, il y a évidemment la différence entre le panier de biens en Guadeloupe, en Martinique, et puis ce qu'on observe dans l'Hexagone. Mais il y a aussi une suspicion qui plane à la fois sur la question du fret, puisque les compagnies qui se chargent d'acheminer les denrées via le transport maritime dégagent des profits qui sont extrêmement importants. Je rappelle, CMA-CGM, c'est 23 milliards d'euros de profits l'an passé. Et puis, il y a aussi le fait qu'un certain nombre de familles qui sont aujourd'hui propriétaires de la grande distribution sont d'anciennes familles blanches créoles qui sont héritières d'une histoire et d'un passé esclavagiste.
Oui, c'est ça, c'est une question qui est particulièrement sensible en Martinique.
Elle est particulièrement sensible parce que, au-delà de la question de la vie chère en elle-même, c'est révélateur d'un certain nombre d'inégalités. Inégalité de traitement perçu entre ce qui se passe dans l'Hexagone et ce qui se passe sur les territoires ultramarins, et inégalité à l'échelle du territoire, puisque les grandes familles dites béquées sont toujours soupçonnées d'accumuler un certain profit et de tirer parti en fait de l'acheminement des denrées vers la Guadeloupe et la Martinique de façon exclusive pour accroître un profit en étant gestionnaire de grands groupes et de grandes enseignes françaises.
Et elles sont soupçonnées à juste titre ?
La question, c'est que quand on décompose en fait le prix des produits tels qu'ils sont vendus dans les grandes surfaces, il y a bien une partie qui est due effectivement à un certain nombre de coûts d'acheminement qui peuvent être expliqués, mais il y a une partie aussi qui est fixée directement par les directeurs des enseignes et par les gestionnaires. Donc la question que posent un certain nombre de consommateurs et de citoyens en Guadeloupe et en Martinique, c'est quelle est officiellement la part qu'on doit à cette importation exclusive et quelle est la part en fait qui fait partie du profit et qui va directement dans la poche de ces grands groupes et de leurs gestionnaires locaux.
Et est-ce qu'il est possible pour la Martinique de moins importer ?
Alors, il serait éventuellement possible de moins importer, mais ça demanderait à revoir le schéma de la production locale, puisque faut dire aujourd'hui que la Martinique importe quasiment 90% des denrées qui sont consommées. Alors, on peut s'imaginer qu'en encourageant les exploitations agricoles, en encourageant des formes de production locale, en important de territoires qui sont moins éloignés, c'est ce que fait par exemple l'île de la Dominique, qui est une île voisine de la Guadeloupe et de la Martinique, on pourrait sensiblement réduire un certain nombre de coûts et avoir, disons, un circuit de consommation qui soit à la fois plus respectueux de l'environnement et un peu raccourci par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui.
Alors, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, après déjà de grandes manifestations, le dispositif du bouclier qualité-prix avait été mis en place. Qu'est-ce qu'il a changé et est-ce qu'il a encore un effet aujourd'hui ?
Alors, la question du bouclier qualité-prix, c'est une question un peu complexe parce que ce qui s'était passé en 2009, c'est que ce bouclier qualité-prix, finalement, avait été mis en place comme le pendant de la revendication centrale des organisations syndicales qui avait été à l'origine de la grève de 2009, qui était une augmentation de salaire. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, ce que semble demander la plupart des manifestants en Martinique, c'est avant tout que l'État intervienne pour réguler les prix auprès des grandes surfaces et pour faire cesser les marges abusives. À l'époque, cette revendication de gel des prix, elle était couplée avec celle de la hausse des salaires parce qu'elle était portée par des organisations syndicales. Donc, la question par rapport à 2009, c'est que manifestement, les organisations syndicales qui étaient aux avant-postes le sont moins dans cette contestation. Et du coup, la seule solution envisagée, c'est de trouver une espèce d'intervention de l'État pour pouvoir réguler les prix à la base.
Et pourquoi est-ce que, selon vous, on n'en parle pas justement de cette question des salaires ?
Ben, à mon avis, ça témoigne là encore du fait que les organisations syndicales sont peut-être moins présentes, moins implantées, et en tout cas, elles ne le sont pas à l'initiative des collectifs tels qu'ils ont été posés.
Mais ne rejoignent pas non plus le mouvement.
Ben, elles ont appelé à le rejoindre, pour ce que j'ai pu observer depuis la Guadeloupe de ce qui se passe en Martinique. Elles appellent à rejoindre et à soutenir les mobilisations. Elles essaient justement à inciter à ce qu'il y ait à relancer des formes de mobilisation un peu plus offensives sur la question des salaires, mais elles n'ont pas l'air de faire l'unanimité, y compris parce qu'en 2009, ce qui avait été demandé, en fait, c'était aux entreprises, concrètement, de financer l'augmentation de salaire qui avait été décidée pour l'ensemble des bas revenus, une augmentation de 200 euros que les entreprises avaient dû payer leur poche. Or là, la situation, c'est que vous avez dans les territoires ultramarins, de nombreuses personnes qui ne sont pas salariées de la fonction publique, qui ne bénéficient pas d'une surrémunération, qui sont des travailleurs du privé, et qui donc protestent contre la vie chère, mais vont pas s'adresser directement à leur patron, vont plutôt s'adresser à l'État pour demander une régulation.
Merci Pierre Audin.
Les entreprises sont pas forcément chaudes pour augmenter les salaires.
Merci beaucoup Pierre Audin d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes sociologue, enseignant à l'Université des Antilles en Guadeloupe. Merci. Cela fait quasiment 3 semaines déjà que les cours ont repris en France et plusieurs milliers d'élèves sont toujours à la rue. L'UNICEF en comptait plus de 2000 juste avant la rentrée, mais ce chiffre est probablement beaucoup plus important car l'évaluation de l'UNICEF ne comprend que les enfants dont les parents ont demandé un hébergement d'urgence sans l'avoir obtenu. Donc à ces 2000 mineurs sans domicile, il faut ajouter ceux dont les parents ne demandent même plus, faute d'obtenir une aide, ceux qui déménagent sans cesse ou ceux qui vivent dans des bidonvilles ou dans des squats. Alors pour les aider, des familles de Lyon s'organisent. Une 20aine d'enfants et leurs familles dorment en ce moment dans des écoles. Et notre reporter Marie Casadebé s'est rendue dans l'une d'entre elles.
À l'heure où les parents viennent récupérer leurs enfants à l'école, ceux de Mariam, 5 ans, la rejoignent pour y passer la nuit.
Je dors dans la salle de musique, parce qu'on n'a pas de maison.
Tu veux bien me montrer ?
Oui.
Alors je te suis ?
Oui.
La petite géorgienne nous guide avec fierté dans les couloirs de cette école qui est aussi son refuge depuis 8 mois.
Ici, c'est un peu vite.
Quelques chaises et une table contre un mur, un grand tableau noir. Il faut de l'imagination pour y voir une chambre d'enfant. Comme chaque soir, la famille doit avant cela récupérer dans le gymnase ce qui lui servira de lit. Une mère d'élèves, Alexandra Grasset, les accompagne.
C'est des matelas de gymnastique, oui.
Oui.
Et après, maman, elle met toutes les couvertures pour que ce soit confortable.
Oui.
Il faut que tous les matins, à 7h20, ils aient libéré l'école pour qu'il n'y ait pas de suspicion de leurs traces. Il faut que tout soit dans l'état dans lequel ils l'ont trouvé.
Même si la situation est tolérée par la mairie, la famille doit se faire discrète. Et cela arrange bien Mariam. Ses camarades de classe ne sont pas au courant.
Ils ne savent pas. Ils posent des questions où tu dors, mais je ne veux pas lui répondre. Parce que j'ai peur.
La fillette avoue avoir peur des moqueries. Elle est pourtant loin d'être la seule à avoir dormi dans ses locaux. Depuis plusieurs années, des parents et des instituteurs de l'établissement, engagés au sein du collectif Jamais sans toit, s'organisent pour héberger dans l'école des familles d'élèves. C'est le cas de Véronique Vielfort.
Toutes les années, tous les débuts d'année, on a des enfants que nous, on repère grâce à l'adresse, parce que c'est une adresse postale, ou parce que les mamans en parlent aux enseignants qui nous alertent. Et après, on essaie de trouver des solutions, et très souvent, maintenant, la solution, c'est d'occuper une école pour ces familles et les mettre à l'abri.
Sans cette solution, Mariam et ses parents vivraient à la rue. Déboutés du droit d'asile, ils ont dû quitter un foyer il y a 9 mois. Depuis leurs appels quotidiens au 115, la plateforme d'hébergement d'urgence reste vain.
We sleep in the car almost months.
Nous avons dû dormir dans notre voiture pendant près d'un mois. Mais Mariam n'arrivait pas à se reposer. Une voiture, c'est trop petit pour 3 personnes. Elle était tout le temps nerveuse, elle pleurait tous les jours. Alors que maintenant, nous avons au moins 7 pièces, des matelas, nous pouvons dormir comme des humains. Elle est maintenant plus calme, plus facile.
Et cela se ressent en classe. Mariam progresse bien, elle qui s'était endormie sur un bureau lors de la première rencontre entre ses parents et son instituteur.
Reportage de Marie Casadebé dans la ville de Lyon.
RFI, la France à midi.
On va parler maintenant d'un film qui fait polémique dans le pays.
Inox Tag, il a fait une grande annonce sur sa chaîne.
Il a annoncé qu'il voulait monter l'Everest.
Le plus haut sommet du monde.
Je sais pas si je vais y arriver, quoi.
Kaizen raconte l'ascension de l'Everest, donc par le youtubeur Inox Tag. Le jeune homme se filme, lui et les produits qu'il place un peu partout pour faire de la pub, pour raconter sa performance à ses 20 millions d'abonnés. Et ça marche. 17 millions de vues en 48 heures, 340 000 spectateurs en une séance unique au cinéma, avant une diffusion le mois prochain sur la chaîne de télévision TF1. Bonjour Isabelle Chenu.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Ça marche, mais avec de nombreuses critiques.
Oui, alors il y a peut-être un peu de jalousie face à ce succès commercial qui a enthousiasmé un public jeune. Vendredi soir à Paris, dans la salle du Grand Rex, il y avait du beau monde, comme le nageur olympique quintuple médaillé d'or Léon Marchand ou les frères Lebrun qui ont brillé en tennis de table aux Jeux Olympiques. Le documentaire d'Inox Tag parle du dépassement de soi, mais contient aussi tous les paradoxes de l'époque. Son nom d'abord, Kaizen en japonais, signifie « changement vers le mieux ». Mais est-ce vraiment vers le mieux? Ce projet, pour ses détracteurs, démontre la course au gigantisme des créateurs de contenu sur Internet. Pour documenter ses aventures himalayennes, il a fallu un dispositif spectaculaire et des moyens financiers et humains énormes. Inox Tag évoque lui-même une somme à 7 chiffres et il participe ainsi à ce qu'il dénonce.
Et les détracteurs du projet disent qu'en fin de compte, c'est la nature qui paye l'addition.
Oui, comme le très médiatique journaliste Hugo Clément, spécialisé sur l'environnement. Il s'insurge. L'Everest est devenu un parc d'attractions pour riches touristes, explique-t-il. Des candidats à l'ascension des bourses entre 50 et 100 000 euros pour espérer atteindre le toit du monde avec du matériel high-tech, des bouteilles d'oxygène et des sherpas pour porter leurs affaires. Au camp de base, ceux qui peuvent payer ont accès à des lodges 4 étoiles avec chef privé et même une discothèque. Alors, le documentaire montre évidemment le surtourisme, les files interminables de candidats à l'ascension, la pollution qu'ils génèrent et les risques liés à l'expédition. Mais ils donnent aussi envie d'y aller. On reproche également à Inox Tag d'avoir plus montré les placements de produits, vous en parliez, hein, des grandes marques de sport ou de l'agroalimentaire, qui lui ont permis de financer l'aventure que les hommes, les sherpas, qu'on voit très peu à l'écran. Alors depuis, ces critiques, des mentions légales de publicité, ont été ajoutées au film. Et puis la sortie du film est accusée d'être hors la loi en France.
Oui, parce qu'en France, excusez-moi, il y a des règles strictes sur la vie d'un film après sa sortie en salle. Les spectateurs doivent patienter entre 4 et 22 mois avant qu'il n'ait l'autorisation d'être diffusé en VOD sur une plateforme payante ou sur une chaîne gratuite. Or là, ce n'est pas le cas puisque le film est disponible sur YouTube. Pour l'être légalement, il n'aurait pas dû excéder 500 séances. Mais le distributeur du film MK2 en a fait le double. Débordé par la demande, dit-il, il s'expose à une amende, il sait qu'il est hors les clous, mais il plaide la nécessité de reconquérir un public jeune en salle. Pour Inoxtag, une question se pose, comment redescendre après avoir touché le toit du monde ? La surenchère sera-t-elle encore envisageable ou souhaitable ? Allez, Anne, on lui souhaite un nouveau défi exaltant sur la sobriété pour à nouveau nous faire rêver.
Merci Isabelle Chenu. On vous emmène maintenant à la rencontre d'un nouveau personnage de la famille de Marguerite Aboué. L'auteur qui a raconté le quotidien d'Aya de Yopougon, d'Akissi, dans une version enfantine inspirée de ses propres souvenirs. Eh bien, elle fait déménager sa jeune héroïne à Paris. Le premier tome de sa nouvelle bande dessinée vient de sortir et Marguerite Aboué en parle à Sophie Torlotin.
Bonjour Marguerite Aboué.
Bonjour Sophie.
Akissi à Paris, premier tome, c'est une nouvelle série des aventures de cette petite qu'on a suivie pendant 11 tomes à Abidjan.
Oui, alors c'est une aventure mais qui continue. Elle était supposée partir. Déjà, ça fait 2 albums qu'elle essaie de tout faire pour ne pas partir de son quartier, de son pays. Et puis là, le verdict est tombé, il faut qu'elle parte pour justement commencer un nouveau cycle de collège. Donc elle part d'Abidjan et elle arrive à Paris et elle commence la 6e.
Et vous êtes inspirée de votre arrivée à Paris, Marguerite ?
Oui, et j'ai un peu remis cette petite fille dans le contexte d'aujourd'hui. Il y a des codes, mais en même temps avec cette petite qui arrive et qui va découvrir une nouvelle culture, d'autres codes aussi.
Oui, parce qu'il y a des téléphones portables, le langage aussi, la façon de parler, les wesh par exemple, que disent les jeunes.
Les wesh, les boulos. J'ai comme l'impression de vivre tellement avec des jeunes, des ados, des pré-ados, parce que je passe mon temps à faire des rencontres scolaire. Et d'ailleurs, ce sont eux qui m'ont soufflé le titre, parce que je cherchais le titre Akissi, et je me disais Akissi la Parisienne, Akissi à Paris, et puis je leur posais juste la question lors de plusieurs rencontres, et ce sont eux qui m'ont dit, mais madame, pourquoi pas Akissi de Paris, puisque vous avez déjà fait Aya de Yopougon.
Alors Akissi, elle est hébergée chez son grand-oncle, elle l'appelle papy, c'était aussi votre cas, non ?
Oui, parce que en fait, c'était l'oncle de ma mère.
Il est très bienveillant, très patient en même temps, parce que là, Akissi et Fofana n'ont plus d'envie, c'est de retourner à Abidjan.
Mais bien sûr, on quitte quand même nos parents, notre quartier, et puis on découvre ces nouveaux élèves qui ont du mal à nous accepter aussi, parce que forcément, il y a aussi la curiosité. J'avais un look assez incroyable quand même quand je suis arrivée, parce que j'avais des tresses piquées comme Akissi, et j'étais habillée avec des robes à la Nelly Olson. Pour moi, c'était un chic incroyable ici, parce que forcément, on regardait la petite maison de la prairie, elles étaient toutes habillées comme ça, et ce que j'aimais pas porter à Abidjan, je pouvais le faire en France. En fait, pas du tout. Et tout ça, j'étais un petit ovni comme ça qu'on regardait un peu bizarrement. Et il fallait, parce qu'il ne savait pas d'où je venais. Et ce papy, qui est justement assez bienveillant, et il a une philosophie de la vie comme ça, parce que est-ce que c'est parce qu'il a fait la Russie ?
Il a étudié, c'est ça ? Il a vécu en Russie ?
Oui. Il est parti très jeune en tant qu'étudiant en Russie, et donc il parlait le russe. Il était très rigoureux, parce que tout devait être, on était censé être des enfants, mais parfaits, bien, mais en même temps, il nous écoutait. C'était nouveau pour nous. Oui.
Et il vous fait découvrir les bibliothèques. C'est de là que vient cet attachement, Marguerite Aboué, aux bibliothèques. On sait que vous en avez créé à Abidjan.
Oui, mais je pense que c'est vraiment lui. Il était, lui, passionné de livres. Il lisait énormément. Il écrivait aussi un peu. Et puis, il nous présente les bibliothèques comme notre nouvelle maison. D'ailleurs, je me suis dit, tiens, on va déménager. Et oui, lui, il m'a dit que tout ce que je pourrais croire, vivre, entendre, ce sera dans les livres. Puis je me suis mise à dévorer les livres. Et en plus, j'avais cet ami dictionnaire qui était dans la classe, qui était un peu le petit mouton noir un peu de la classe, et que tout le monde se nommait dictionnaire. Et donc, j'avais compris pourquoi, parce qu'il passait aussi ses journées de libre à la bibliothèque. Je voulais être aussi intelligente que lui, parce que c'était quand même le meilleur de la classe. Et il me disait, pour être intelligent, faut lire. Je ne sais pas si je suis devenue intelligente, mais en tout cas, j'ai suivi la conseil de dictionnaire. Oui.
Merci Marguerite Aboué.
Marguerite Aboué qui publie donc le premier tome d'une nouvelle bande dessinée Akissi de Paris. Elle répondait à Sophie Torlotin. Vous restez avec nous sur RFI, on se retrouve dans 30 secondes pour l'actualité européenne.
Les dessous de l'Infox, Sophie Malibaud.
Entre les patrons des grandes plateformes et les États, c'est l'épreuve de force. TikTok aux États-Unis, X au Brésil ou Telegram en France en sont l'illustration. Quels sont les acteurs en capacité de modeler les activités sur Internet ? Nous interrogeons Valère Ndior, chercheur au Centre Géode pour géopolitique de la datasphère.
Les dessous de l'Infox avec Sophie Malibaud, tous les vendredis à partir de 17h30 TU sur RFI.